Et n'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent?
Ça va très bien. J'espère avoir un petit peu de soleil quand même, un de ces jours.
Eh oui.
Mais... en sortant du cinéma, avoir un petit rayon de soleil, c'est sympa.
En ce moment, il vaut mieux avoir un ciré solide et un parapluie qui résiste au choc.
C'est clair, surtout au grêlon. Oui.
Surtout au grêlon. Laurent, vous allez nous parler de films à voir à la télé. Combien de films avez-vous choisi ce soir?
J'ai choisi 3 films pour passer une bonne soirée de cinéma à la télévision, tranquillement chez soi. Et messieurs, je sais que vous aimez les films gothiques allemands, donc il y aura un conseil Blu-ray en ce sens.
Un gothique allemand?
Ah oui.
Oh là là, on est impatient de le savoir. Hein. Vous avez entendu son significatif ou son aussi. C'est Guillaume Sidom, notre mécano du cinéma, le vrai, le seul mécanographe cinématographe.
Je crois que vous alliez dire mécano de la générale.
Non, ça, sinon la locomotive, là, je pense qu'elle ne rentrerait pas dans le studio.
C'est vrai, lui, Marie. Je vois que vous êtes en smoking quand même, il faut le préciser.
Bah,
aux
oui,
auditeurs
toujours.
qui n'ont pas l'image.
Avant voilà.
Bah, oui,
on est en train de nettoyer le tapis rouge, d'ailleurs.
Oui, voilà. D'ailleurs, c'est la preuve que les marges vont bientôt être foulées par des stars.
Oui.
Puisqu'on fait le tapis rouge tout propre. Guillaume Sidom, faites tout rêver vous aussi.
Oh, ce soir, un suspense routier au réalisme glacé, implacable et constamment oppressant à retrouver dans le cycle Road Movie, vous savez, en partenariat avec l'ouvreuse et la Cinémathèque de Toulouse, ce sera aux abattoirs.
Et puis, en plus de ces magnifiques chroniqueurs que vous venez d'entendre, il y en a un troisième qui nous poste toujours son petit billet d'humeur. Quand on dit d'humeur, ça peut être une plaidoirie. Ou alors, plus compliqué, le mot du procureur, son réquisitoire. Je veux parler bien sûr de Grégory Combe, notre homme de loi des séries, qui, comme tous les mercredis, ouvrira son tribunal, celui des séries, et parlera ce soir de Cœur Noir, la série qu'on peut voir sur Prime Video. Et puis, dans le panier de l'ouvreuse, en plus de toutes ces belles choses dont je viens de vous parler, dont nous venons de vous parler, eh bien, on ira faire un tour à Cannes, vous le savez. On vient de vous le dire, puisque nous sommes habillés en conséquence, et l'ouvreuse également, puisque nous serons tous les quatre, à monter ces fameuses marches, cette volée légendaire et mythique. Plus de 4000 journalistes couvrent le Festival de Cannes. Alors, d'aucuns disent c'est le deuxième, d'autres le troisième événement le plus couvert par la presse au monde. Après, bien sûr, les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Voilà donc si les choses sont situées. Alors, bon, après, on peut discuter sur le fait que la Coupe du Monde de football est effectivement tout à fait couverte par les journalistes, mais ne touche pas l'ensemble du globe, alors que les Jeux Olympiques comme le Festival de Cannes sont censés rassembler tout le monde dans le monde entier, n'est-ce pas, Guillaume Sidor?
Oui, et puis il faut préciser aussi que la couverture médiatique pour la Coupe du Monde de football n'est pas forcément en clair en France. L'intégralité de la Coupe du Monde n'est pas en clair.
Ouais. Ça, c'est autre chose, effectivement, qu'il convient de signaler. Merci, Guillaume Sidom. Mais continuons notre propos, à savoir le contenu du panier de l'ouvreuse. Après les Cannes, les marches, les pronostics, tout ce qu'on sera amené à vous raconter à ce dit moment, eh bien, nous arriverons aux reprises sur le grand écran, après quoi nous retrouverons Laurent Martin, et puis il y aura bien sûr en fin d'émission les coups de cœur, car on a toujours des films, des manifestations qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. On est ensemble jusqu'à 20h, bon début de soirée avec nous. Eh bien, installez-vous tout de suite. La projection commence et Empressez-vous de regarder le bas de votre poste à transistor ou numérique pour regarder les sous-titres et les lire surtout.
When are you due back?
No particular time.
Yeah, we told our wives to expect us home when we got there.
You got wives, huh? Any kids?
I have.
Just keep thinking how nice it'll be to see them again.
Une drôle de discussion qui a lieu entre les deux occupants d'une voiture qui viennent de s'arrêter pour prendre un autostoppeur. Le dit autostoppeur est pour le moins étrange, n'est-ce pas, Guillaume Sidom?
Ah oui, étrange pour le voyage de la peur réalisé par Ida Lupino en 1953 avec Edmond O'Brien, Frank Lovejoy et William Talman, musique signée Les Stevens que vous entendrez à la fin de ma chronique. Pourquoi devez-vous, auditeurs, de N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence, découvrir absolument ce film? Eh bien parce qu'il s'inspire d'abord d'un fait divers réel survenu en Californie au début des années 50, parce que la comédienne Ida Lupino donc est réalisatrice ici, une des rares d'Hollywood, c'est à souligner, parce que Edmond O'Brien effectue ici sa première apparition sous la direction des réalisatrices, parce que William Talman, qui interprète le tueur, connaîtra un destin tourmenté à la suite d'un scandale, en effet. Une nude party hollywoodienne à laquelle il aurait participé, eh bien, il se retrouve viré par la chaîne américaine CBS de la série Perry Mason. Mais enfin, parce que l'affiche du film figure au palmarès des 25 meilleures affiches de tous les temps, organisées par le journal américain Première, avec ce visage ferme du preneur d'otages qui pointe son revolver sur l'une de ses victimes, pendant que le regard vide du conducteur, lui, préfigure le long et dur voyage de cette route maudite. Jouant sur un des nerfs de la mythologie américaine, la route, cet hybride film mi-noir, mi-road movie est surtout exemplaire de la série B qui, par-delà la modestie de ses moyens et de son approche, exprime avec d'autant plus de franchise, d'intelligence et de portée un certain regard sur l'humain. Aucun risque que vous confondiez Ida Lupino avec une créature des studios d'Hollywood. Actrice, elle impose une présence tranquille, mais certaine, principalement dans des rôles de femme fatale auxquels son physique, assez peu conforme pour l'époque au canon en vigueur, ne la prédispose pas tout à fait, au point de reprendre même quelques rôles destinés à l'origine à Bette Davis. Mais elle en veut plus, alors avec la collaboration de son mari d'alors, Collier Young, eh bien elle se lance dans la production, l'écriture et bientôt la réalisation de films à budget modeste dans l'ombre des studios. Et parmi eux, Le Voyage de la Peur, sa cinquième réalisation, fait encore figure d'anomalie, faisant suite à quatre longs métrages à thématique féministe. Il s'avance comme un film noir, pur et dur, le premier film noir réalisé par une femme, qui plus est avec une distribution exclusivement masculine. Paradoxe de surface, vu avec quel regard jamais inquisiteur mais toujours subtilement critique, Lupino met en évidence une virilité problématique.
Alors quelle est l'histoire ?
Eh bien, cela commence par un secret honteux entre hommes. Deux copains roulent en vadrouille vers le Mexique, célibataires à l'insu de leurs épouses respectives, tentés par les filles de joie. Ils vont y renoncer au dernier moment pour reprendre leur plan initial de partie de pêche, et c'est peu après cependant que nos clandestins commettent leur faux pas, prendre un autostoppeur Myers qui se révèle un tueur en série recherché dans plusieurs états pour les meurtres de conducteurs aussi confiants qu'eux, et sous la menace de son revolver, eh bien il va les contraindre à le conduire à travers le Mexique. Les efforts des forces de police pour resserrer leur filet n'apparaissent ici que comme de pures conventions de scénario. Le film, lui, colle implacablement au basque des trois fugitifs. Et déjà compact par sa durée, The Hitchhiker, c'est le titre original, s'étoffe en factionnant la cavale en une multitude de courtes scènes. Elle figure les maillons d'une même chaîne d'asservissement.
Chacun de ces instants est en effet consacré à un acte d'autorité de Myers, l'autostoppeur sur ses otages.
Il va diriger leurs moindres gestes et leurs moindres mots, les humilie, les met au défi de se rebeller pour mieux écraser leur volonté et leur signifier que leur destin n'est plus entre leurs mains, leur survie même ne dépend que du retard des enquêteurs sur Myers. Et encore, l'espoir de celui-ci les épargne, reste-t-il moins que ténue. Une telle atmosphère fait que dans cette cavale, eh bien, dont le séquençage serré rend parfaitement la longueur, le suspense de l'issue de la détention pèse finalement moins lourd que l'oppression mentale à l'œuvre et le refoulé au travail, lesquels laissent attendre une explosion dévastatrice. À le regarder hors de la tension du moment, son criminel ne paie pas vraiment de mine. Avec son œil mort et sa main invalide, détails physiques certes intimidants, mais qui ne sont pas des handicaps ici, expliquant encore mieux qu'ils mettent systématiquement des otages à contribution. Des acteurs impeccables, je l'ai dit, notamment William Tallman, qui incarne ici un psychopathe d'anthologie. Et pour l'anecdote, eh bien, l'acteur raconte même que peu après la sortie du film, eh bien, un homme l'accoste dans la rue. Alors qu'au volant de sa décapotable, il attend que le feu passe au vert, il lui demande s'il est bien l'autostoppeur du voyage de la peur qu'il vient de voir. Et Tallman acquiesçant, il le frappe au visage avant de repartir. La réalité a dépassé la fiction. Un suspense routier dont vous découvrirez l'issue samedi 7 juin, 16h, aux abattoirs 76 allée Charles de Fitte à Toulouse, dans le cadre du cycle Road Movie jusqu'au 29 juin prochain, en partenariat avec l'ouvreuse Radio Présence et la Cinémathèque de Toulouse. Gagnez vos places pour deux personnes en nous envoyant vos noms et prénoms à cinéma@radioprésence.com. Retrouvez toute la programmation sur la cinémathèquedetoulouse.com et en Blu-ray et DVD chez Wildside Vidéo. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
C'est Lace Stevens, comme vous le signalez dans sa chronique, Guillaume Sidom, qui a signé la bande originale du film d'Ida Lupino, Le Voyage de la Peur. La semaine dernière, nous vous invitons à gravir avec la patience et le temps qu'il faut, ces fameuses marches, ces quelques-unes volées de marches, enfin quelques-unes, il n'y en a que deux, hein. J'exagère un peu, je vais arriver à le dire, mais deux volées de marches, mais enfin, ça fait un beau moment.
Ça prend du temps, parce qu'il faut s'arrêter devant les photographes, n'oubliez pas, il ne faut pas monter comme ça, 4 à 4.
Bien sûr. Et en tout cas, les photographes, eux, vous attendent en bas. Après, vous pouvez vous retourner sur les escaliers pour leur faire coucou.
Et certains se disent, mais c'est qui eux? Mais ils les prennent quand même en photo au cas où.
On sait jamais sur
ça. Ça a été le cas pour nous, d'ailleurs. Ils se disent, mais c'est qui ces gens-là?
Ils nous ont pris en photo nécessairement. Bon, je suis tellement ému que je prends mes pieds dans le tapis rouge. Toujours est-il que je vous invite à écouter le petit montage du jour concernant l'actualité cannoise. Guettez, vous essayerez de reconnaître, mais ce sera très compliqué. Il y a des choses qui seront évidentes et d'autres pas du tout.
C'est une femme qui a décidé d'abandonner un petit peu son pays pour venir ici pour refaire sa vie. Et là, après 40 ans de vivre en France, on a une certaine fantaisie de ce que c'est la France. Et je pense que ça fait partie du personnage.
C'est une Américaine, on n'a pas voulu gommer le fait que c'est une Américaine d'origine, qui s'est installée en France, cet horizon, en tous les cas cet imaginaire, il a du sens dans le film, et il fallait donc qu'elle fasse quelques petites fautes, elle la faisait extrêmement difficilement, il fallait vraiment qu'elle apprenne le moment où elle faisait les fautes. Et c'est bien parce que j'adore que quand on te dise, on dirait un personnage français, tu nous dises pas je suis désolée, parce que moi je viens quand même de la génération quand on disait ça fait français c'était nul, et ça fait américain c'est super.
Thank you. This is my brother right here. I love him. And I'm glad you're here for all the people who love you too.
We love you.
And we have something special to give you, Mr. Denzel Washington.
Which is the Palme d'Or d'honneur pour Denzel Washington.
Hey, tu fais un peu trop du Parker.
Faut qu'on comprenne.
Faut que tu comprends pas quand je parle, c'est pas français.
Je comprends, mais j'ai pas l'impression que toi tu comprends ce que je dis.
Bah si, je comprends.
Mais déjà, faut qu'elle connaisse bien, et après, pourra mettre.
Faut que ce soit tes mots.
Bah, c'est mes mots. Bref, vas-y, continue.
Vas-y, frère, tu vois.
Ouais, je recommence.
Être libre et snobir, Casso. Dans sa chanson, elle s'intitule « Ma liberté ».
Si, parmi les sons que vous avez entendus, il y en a un d'évidence, à savoir le moment où Thierry Frémaux et Spike Lee remettent à Denzel Washington sa palme d'or d'honneur, qui était une surprise pour lui, c'est une palme d'or surprise. D'ailleurs, le secret a été bien gardé, à l'inverse de Robert De Niro, qui savait très bien, quand il est arrivé à Cannes, qu'il allait se voir remettre une palme d'or d'honneur, Denzel Washington.
Il fallait prévoir un petit supplément bagage pour le retour de l'avion.
Oui, surtout qu'en ce moment, on fait tout payer. Hein. Et pour Denzel Washington, ça a été une grande et belle surprise au moment même où le film de Spike Lee était projeté, film dans lequel il tient le rôle principal et qui, il faut bien l'avouer, a déçu les festivaliers et la critique aussi.
Mais il n'est pas en compétition celui-là.
Il est hors compétition. Il est hors compétition. Sinon, vous avez entendu Jodie Foster au début de ce son parler avec Rebecca Zlotowski et elles parlaient toutes les deux du film dont elle est la vedette, mais pas toute seule, mais elle est le personnage central. Elle incarne Lillian Stener dans ce film Vie privée. Lillian Stener, qui est une psychiatre connue. Et au moment où elle apprend la mort de l'une de ses patientes, elle se persuade qu'il s'agit d'un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête. À ses côtés, au générique de ce film, il y a Daniel Auteuil et Virginie Efira. Et vous comprendrez pourquoi. Et vous l'avez entendu, Jodie Foster parle français et qu'il a fallu qu'elle prenne l'accent américain, qu'elle fasse des fautes de français, parce qu'elle parle parfaitement bien français, ouais. Le français, et c'est son premier film entièrement en français. Et donc le paradoxe, vous l'avez entendu, c'est qu'il fallait qu'elle commette quelques erreurs de français
bien,
dans ce film.
C'est bien un petit accent comme ça, des erreurs.
L'accent est là, mais c'est les fautes de grammaire, ouais, et de syntaxe, elle ne les fait pas.
Et le voiture, comme disait Jane Birkin.
Exactement, mais elle n'avait jamais perdu son défaut de langue.
C'est 50 ans, vie en France.
C'est ce qui faisait son charme. Et puis, vous avez entendu, après la Palme d'Or d'honneur délivrée à Denzel Washington, un extrait de La Petite Dernière, le troisième long métrage d'Avzia Herzi, qui lui est en compétition et qui lui aussi, on va y venir, a des chances de figurer. Ouais, y a des bruissements qui dirait que le film pourrait figurer au palmarès, tout comme son interprète principale, Nadia Meliti. C'est l'histoire de Fatima, qui a 17 ans, et qui est la petite dernière d'une famille. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, vous les entendez? Elles sont en train de prendre le petit déjeuner ensemble, et Fatima s'apprête à lire ce qu'elle doit faire à la fac, parce qu'elle a intégré une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Pour elle, c'est quelque chose qu'elle ne connaissait pas du tout. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s'émancipe de sa famille et ses traditions. Fatima se met alors à questionner son identité. Comment donc concilier sa foi avec ses désirs naissants, hein? Compliqué, mais remarquablement raconté par Avzia Herzi. Et puis, la dernière musique que vous avez entendue suffit à comprendre que c'est la musique du film d'Alpha, de Julia Ducournau, le film à nouveau fantastique qu'a réalisé la jeune cinéaste Julia Ducournau, qui était lauréate de la Palme d'Or il y a 4 ans pour Titane.
Déjà 4 ans.
Eh oui, déjà 4 ans. Déjà 4 ans. C'était au sortir du Covid.
Le quoi?
Oui, non, on a oublié.
On a oublié.
Alors, si vous voulez, avant de vous laisser, Laurent, parler des films cannois qui sont à l'affiche ou qui vont l'être dans peu de temps, puisqu'il y en a, vous le savez, qui sortent au moment où ils sont présentés au festivalier et au jury cannois, on va s'amuser au pronostic. Alors, on peut aller chercher des infos un peu partout, à savoir... il y a le film français qui publie, vous savez, tous les ans, il y a l'avis de la presse internationale et nationale. Donc je disais le film français pour la critique française. Alors les uns donnent des étoiles, d'autres des palmes, les troisièmes des points en fait. À vous de faire les moyennes, c'est un peu compliqué. Alors il y a le film français, je le disais, pour la presse plus spécifiquement française, Screen, aussi pour la presse internationale et surtout américaine, il y a Vogue aussi. Et alors, qu'est-ce qu'il en sort de tout ça? Alors, il faut un petit peu, alors les uns disent un truc, mais en fait, on va se garder de faire un classement, mais toujours est-il qu'il y a quelques titres qui ressortent. On a parlé de La Petite Dernière. La Petite Dernière de Avzia Herzi, mais il y a aussi le film de, alors il faut retrouver son nom, Kleber Mendoza Filho,
l'agent secret,
réalisateur
Agente Secreto,
la dictature dans les années 70,
le réalisateur brésilien, ça se passe au Brésil, l'agent secret tiendrait bien la corde. Il y a deux procureurs aussi, qui s'en sortent pas trop mal. Alors, les deux procureurs, eux, c'est un film signé Sergueï Losnitsa, ukrainien, qui parle... L'action du film se passe en 1937. Le film dénonce la propagande moscovite, mais elle existe encore, cette programme.
Propagande moscovite.
Elle est toujours diablement d'actualité. Puis, il y en a un autre aussi qui s'en sort pas trop mal, c'est le film de Masha Chilinsky, Sound of Falling.
Ouais, c'est l'info que que j'ai aussi. Et moi, je rajouterai le film espagnol Sirat d'Oliver Lax.
Alors,
film sur la techno.
Exactement, avec un père qui se perd dans le désert pour avec son fils pour aller en chercher un autre. Et c'est Sergi López le père. C'est un film espagnol. Et puis vous avez oublié Nouvelle Vague aussi.
Oui, de Richard Linklater.
Exactement, une comédie plutôt drôle enlevée sur le tournage d'un bout de souffle de Jean-Luc Godard.
Le titre.
C'est particulièrement réussi.
Mais Nouvelle Vague au singulier.
Oui.
Exact,
puisqu'il rend hommage en fait au cinéma de Godard et plus largement à la Nouvelle Vague qui a marqué le cinéma français à l'époque. D'ailleurs, le film est en partie tourné en noir et blanc.
Après, le cinéma qui parle du cinéma, bon. Alors que le Festival de Cannes a l'air plutôt politique, donc moi je pencherais plutôt vers Afia Herzi.
Oui, par exemple, de procureur peut-être aussi.
Oui.
Voilà. Politique ou social, hein, quelque part.
Festival très politique et social, hein, depuis quelques années, ça commence à m'agacer, personnellement.
Mais les Américains ont déçu. Lynn Ramsey avec Die My Love n'a pas totalement convaincu ni les festivaliers ni la presse, comme le film d'Ari Aster, Eddington, lui non plus, avec Pedro Pascal, Joaquin Phoenix, malgré ce casting 3 étoiles.
Ouais.
Parce qu'en plus, j'ai oublié, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, faut pas oublier l'actrice, Emma Stone.
Donc, oui, il y a du lourd là. Oui.
Et de l'autre côté, chez Die My Love, chez Lynn Ramsey, il y a Jennifer Lawrence, et puis il m'échappe.
Oui, c'est un nouvel acteur, oui.
Il me reviendra. Il était dans un film qui est sorti tout récemment de Bong Joon-ho.
Mickey 17.
Oui, Mickey 17. Voilà, ce qui s'appelle avoir un trou, et
c'est pas grave, nos auditeurs vont nous rattraper. On va recevoir un mail vite.
Effectivement, cinéma@radioprésence.com.
Voilà,
et puis une dernière petite chose, puisqu'on en est au pronostic. Pour les prix d'interprétation, les noms courts, on donnera. Celui de Nania Meliti, on en a déjà parlé, qui joue la petite dernière d'Avzia Herzi, ou encore Alexandre Kuznetsov, qui tient le rôle principal du film de Sergueï Losnitsa, à savoir Deux procureurs. Voilà, une dernière chose, il va y avoir la Palme d'Og. L'année dernière. Et alors, qui succède?
Un festival qui a du chien.
Voilà. Joli.
qui succède à.
Le Nonos d'Or.
Exactement. Et qui succédera à Cody, qui était la star du film Le procès du chien, rappelez-vous, l'année dernière.
Parfois, les chiens jouent mieux que les humains, hein, faut savoir.
En tout cas, il était totalement convaincant dans le procès du chien, le film de Laetitia Doche. Ouais. Remarquable. Et
Laetitia
Dogg. Comment ?
Laetitia Dogg, pour le coup.
Oui. Et il y avait eu aussi, avant lui, Messi, le chien qui apparaissait dans le film Primé, Anatomie d'une chute, de Justine Trier.
Exactement,
il y avait un chien aussi.
Un chien footballeur qui s'appelait Messi. Ouais.
Exactement. Donc,
il a dribblé tout le monde sur le tapis.
La Palme d'Og se tiendra vendredi 23 mai, donc après-demain, à la plage du festival. Voilà.
Mais ça, c'est non officiel, ça.
La Palme d'Og est officielle.
Ah ouais.
Maintenant,
il n'y a pas un film dans chaque. Il n'y a pas un chien, je veux dire, dans chaque film.
Non, il cherche.
C'est le Nonos d'Or, la récompense. C'est quoi ça?
Non, c'est la Palme d'Og.
D'accord, la Palme d'Og.
Mais
un an d'abonnement à Whiskas.
La Palme d'Og.
La Palme d'Og.
Et oui, ils ont des idées.
Hein. Ouais,
en plus, ça fait un peu d'humour, c'est pas mal. Ouais.
C'est pas nouveau parce que ça existe, c'est la 25e édition. Donc, ça fait un moment que la Palme d'Og est attribuée.
C'est à un moment donné, il y avait les hot dogs. Non, les hot dogs, par exemple.
Les hot dogs, mais ils ne sont plus, attribués. Ils ne sont plus attribués. Et là, c'était une section, comme la Palme d'Og d'ailleurs, mais vraiment très parallèle, les hot dogs. Hein, tout à fait parallèle. Laurent, dites-nous ce qu'on peut voir qui vient de la Croisette cette semaine.
Le champagne est bon. Sur Cannes, consommer avec modération, bien sûr. Alors à partir de demain, attention, 22 mai, vous pourrez voir L'Avenue de l'Avenir, le nouveau film de Cédric Clapiche, Le réalisateur de l'Auberge espagnole et des Poupées russes nous propose ici son nouvel opus, comme on dit dans les médias, avec Vincent Macaigne, Julia Piaton, Suzanne Lindon, Sarah Giraudot et Paul Kircher. Bah, de nos jours, une trentaine de personnes issues d'une même famille apprennent qu'elles vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Et quatre d'entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy, sont chargés d'en faire l'état des lieux. Ces lointains cousins vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d'une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie à 20 ans. Et cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Et pour les quatre cousins, alors il y a là un jeune créateur de contenu, un apiculteur baba, un cadre et un prof de collège, pardon. Donc ce voyage d'introspection dans leur généalogie va leur faire découvrir ce moment si particulier de la fin du 19e siècle où la photographie s'inventait et l'impressionnisme naissait. Ce face-à-face entre les deux époques, donc 1924 et 1895, remettra en question leur présent et leurs idéaux et racontera le sens de la vie, c'est-à-dire l'avenue de l'avenir. Vous voyez le jeu de mots sur l'avenue, l'avenue et puis l'avenue comme un boulevard de l'avenir. Alors bien sûr, on n'a pas vu ce film puisqu'il sort demain. J'ai déniché quand même une critique du Nouvel Obs, qui, eux, ont vu le film. Dommage que Clapiche préfère lier le passé au présent par le truchement d'un discours politique à la fois lourd et mièvre, plutôt que densifier la rêverie et le délire, esquisser l'espace d'une ou deux scènes, pourtant très efficace.
Ça s'appelle l'Obs, maintenant, non ?
Oui, ou le Nouvel Obs, oui, comme vous voulez. C'est ce que j'avais noté, en tout cas. Je me suis peut-être trompé. À Cannes aussi, on peut voir... Et en France, à partir du 23 mai, c'est-à-dire à partir de vendredi, Jeune Mère de Jean-Pierre et Jean-Luc Dardenne, des habitués du Festival de Cannes. On pourra voir ce film à l'ABC, à Toulouse ou au Grand Palais si vous êtes à Cahors. Et puis bien sûr, vous n'y échapperez pas, Mission Impossible, The Final Reckoning de Christopher McQuarrie, qui se fait étrier par Télérama avec Tom Cruise. Voilà, mais apparemment c'est le dernier opus, donc c'est fini pour Mission Impossible. Et
quel ennui, ils disent.
Oui. 2h49 quand même. Hein.
Oui, donc, 2h49.
Pour... L'éternité, c'est long, surtout sur la fin, comme disait Woody Allen.
Oui, oui. Surtout sur la fin, c'est là que ça commence à devenir difficile. Alors je me suis fait tenser par Philippe qui a envoyé un message, c'est Robert Pattinson,
bien sûr, oui,
qui est le partenaire de Jennifer Lawrence et qui lui aussi fait partie d'un casting 3 étoiles, celui du film de Lynn Ramsey.
Baby's crying cause it's born to sing. Singers cry about everything. Still in the playground, falling off a swing. But you know that I know. It is what it is, it's not what it seems this.
Vous avez reconnu la voix, bien sûr, de Bono, le chanteur de U2, parce que un film lui est consacré à Cannes, un documentaire signé Andrew Dominik, qui lui est en sélection officielle, mais dans les séances spéciales, donc il n'est même pas gratifié du label hors compétition, mais les séances spéciales mérite souvent le déplacement. Alors, c'est un film qui montre le spectacle de Bono, Stories of Surrender, An Evening of Words, Music and Some Mischief. Voilà le titre complet du spectacle de Bono. Story of Surrender, c'est ce qu'en a gardé Andrew Dominik, pardon, le réalisateur pour ce film. Et donc Bono montre ce qu'est sa vie extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis sa famille, ses amis, la foi. Et puis il parle d'histoire personnelle, et puis bien sûr, on entend ces morceaux qui sont des morceaux de U2, mais qu'il interprète de façon particulière parce qu'il les interprète sans ses petits camarades du groupe mythique lui aussi.
All night, I lie for a living, I love to let on.
Et dites-nous, Laurent, ce qu'il nous reste à voir sur les écrans des cinémas qui ne soient pas estampillés Cannes 2025.
À l'affiche cette semaine, nous partons en Roumanie avec Libertate, le nouveau film de Tudor Georgiou. Décembre 1989, la révolution roumaine a débuté et la ville de Sibiu, qui est d'ailleurs une très belle ville en Roumanie, si vous y allez, il faut la visiter, devient le théâtre de terribles affrontements. Les policiers et miliciens fidèles à Ceausescu sont arrêtés et réunis dans le bassin vide d'une piscine. Mais comment savoir qui est qui dans un tel chaos? Alors une guerre civile est par essence fratricide. Les hommes et les femmes qui s'affrontent finissent par se confondre et se fondre dans une identité tantôt revendiquée, hein, l'insolence des vainqueurs, ou dissimulée, hein, le fardeau des vaincus. Le film de Tudor Giurgiu fait de ce chaos identitaire l'essence même de son récit. Les signes de reconnaissance tombent dès lors que l'extrême brutalité du réel contrarie toute perception. La caméra saisit la frénésie d'un espace où les balles et les cris blessent les corps. Et soudain, un abîme, le bassin d'une piscine, donc vidé de son eau, qui devient une prison où policiers et miliciens sont parqués avant d'être jugés. La caméra arpente comme ça à chaque centimètre du carrelage froid où une micro-société de parias se réorganise. Qui est qui dans ce grand bain? Chacun revendique le droit de ne pas être celui qu'on croit. Chacun essaye de sauver sa peau. Alors que les corps et les âmes s'additionnent, ce n'est pas tant la vérité extérieure que l'on scrute que la façon dont les comportements et les interactions traduisent la profondeur des êtres. Avec un sens de l'absurde et du tragique incomparable, Tudor Giurgiu redéfinit les contours de l'histoire à l'échelle d'un cadre à taille humaine. Le bassin vide de la piscine, soudain débarrassé de ses occupants, affiche son insignifiance. L'humanité ne s'agite plus, elle est partie ailleurs, les blessures, elles, sont restées à la surface. Vraiment un très beau film sur cette révolution roumaine, et on ne parlera jamais assez du dynamisme du cinéma roumain avec tous ces réalisateurs que l'on connaît maintenant. Petite revue de presse sur ce film, une reconstitution historique immersive et une mise à nu féroce de l'âme humaine selon les filles du cinéma qui a beaucoup aimé. Un petit bémol pour les cahiers du cinéma, malgré ses qualités, Libertate souffre d'une absence manifeste de point de vue. Si le début et la fin se rattachent au personnage de Viorel, le policier de la militia, entraîné malgré lui dans les événements, ben l'essentiel du film se limite à un regard extérieur et volontairement neutre. À l'affiche aussi cette semaine, très peu de films, mais on pourra jeter un œil sur Oli. Sans Big Flo, hein, sur le titre du film Oli d'Antoine Bess, mais ça n'a rien à voir avec le chanteur, hein, au CGR Montauban Paris, vous pourrez le voir. C'est l'histoire de Pierre, qui est un passionné de skate. Le film d'horreur de la semaine, ce sera Les Maudites de Pedro Martin Carrero, à l'américaine Cosmographe. On peut voir aussi Hurry Up Tomorrow de Trey Edward Schultz, et puis un petit dessin animé, Lilo et Stitch de Dean Fletcher Camp.
Non, c'est pas un dessin animé.
C'est pas un dessin animé.
C'est la version live action du dessin animé. Vous savez que vous savez que Walt Disney ne fait pas de la nouveauté. Il reprend
le recyclage.
Il reprend ses fameux films d'animation pour en faire des films en images réelles.
Pas toujours bien. Hein. Blanche-Neige, dernier exemple.
Ouais.
Lilo et Stitch.
Aloha, 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 aloha.
C'est Hawaiian Roller Coaster Ride, interprété, allez, je me lance, par Yam Tongi et le chœur des élèves de l'école de Kamehameha. Ça y est, c'est pas si compliqué que ça. Kamehameha, c'est le nom de l'école et c'est le chœur des élèves de cette école qui accompagne Yam Tongi. Hawaiian Roller Coaster Ride, c'est évidemment dans Lilo et Stitch, puisque c'est l'histoire d'une petite fille hawaïenne solitaire qui va faire la connaissance d'un extraterrestre fugitif. Évidemment, il est poursuivi, mais il ressemble à une espèce de petit ours, de petit chien, on ne sait pas trop quoi, mal fichu, mais en peluche et bleu, et qui va l'aider à renouer avec sa famille. Allez, on retrouve tout de suite notre homme de loi des séries qui nous part de Cœur Noir, une série qu'on peut voir sur Prime Video.
Je déclare l'audience ouverte.
Je ne pensais pas que ça arriverait un jour, mais je vais vous parler en bien d'une série française. Cette série, c'est Cœur Noir. C'est une série que vous pouvez retrouver sur Prime Video et vous pouvez trouver la saison 1 et la saison 2. Pas d'inquiétude, je ne vais pas vous spoiler cette série parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez la découvrir. Alors, c'est une série française qui est réalisée par Zia Doheri et qui a été mise en ligne le 3 février 2023 sur Prime Video. Ce qui est dingue, c'est que la série est tellement bonne que même les Anglais nous l'ont achetée. Alors, pour que les Anglais nous achètent un truc, c'est que vraiment ils n'avaient pas le choix tellement que c'était de qualité. Ça parle de quoi ? Je vous lis le synopsis officiel. Elle a pour sujet un commando des forces spéciales françaises qui doit faire face à Daesh et l'un de ses sous-groupes qui se surnomme les Cœurs Noirs. Ce dernier, le groupe, est composé essentiellement de Français qui mènent des opérations terroristes en Irak et sur le sol français. Alors, c'est très casse-gueule un sujet comme ça, on va être d'accord. Aujourd'hui, en plus, il y a tout le tapage justifié sur le fameux rapport sur l'entrisme des frères musulmans. Et donc, vous dites comment ils arrivent à traiter ça sans polémique. Eh bien, parce que c'est parfaitement écrit, c'est vraiment maîtrisé. On suit vraiment, vraiment un point d'actualité. Hein. On voit vraiment la suite, la veille de la bataille de Mossoul, qui est en octobre 2016. On voit vraiment les enjeux qu'il y avait pour nos troupes en Irak et à quel point, en fait, ce qui se passe là-bas a une répercussion dans notre pays. C'est très bien écrit, c'est très fin, c'est très politique. C'est pas manichéen. Et ça nous donne des clés de compréhension politique. C'est ce que j'adore. C'est-à-dire que d'un côté, ça nous prend par la main pour nous donner des clés de compréhension, mais sans nous dire obligatoirement, vous devez prendre en compte ce qu'on vous dit parce que c'est nous qui avons raison. Non, on vous permet de comprendre. C'est superbement écrit aussi parce que, en fait, ça vous tient en haleine et que vous avez envie de savoir ce qui se passe derrière. Les scènes d'action sont très, très bonnes. Elles sont juste ce qu'il faut. Et elles sont extrêmement réalistes et à chaque fois les héros sont vraiment en danger. On a un casting qui est vraiment là aussi de très bon niveau. On a Nicolas Duvauchel qui est excellent. On a Marie Dompnier. On a aussi, et je l'adore, c'est mon chouchou. Il a joué dans plein de séries policières et dernièrement dans Andorre, Thierry Godard. Donc on a vraiment la crème de la crème des acteurs français. Et vraiment, il n'y a aucune fausse note dans le jeu, ce qui est très rare et ce que je voulais vraiment signaler. Derrière, c'est aussi une série qui est particulièrement technique et réaliste. C'est-à-dire qu'elle est documentée et elle s'est formée auprès du 3e escadron du 13e RDP. Donc, on a véritablement une vision de comment se déploient les troupes. Pareil, le vétéran des forces spéciales françaises, qui est récemment retraité, Redouane Louazizi, a été engagé comme conseiller technique lors de l'écriture et du tournage. Donc là aussi, vous êtes assuré d'avoir quand même quelque chose qui touche à la réalité. On a un style, effectivement, qui est très stressant à des moments, mais on n'oublie pas non plus des phases un petit peu de détente entre les militaires. On n'oublie pas l'aspect vie des civils, et surtout tous les à côté qui peuvent troubler ce genre d'unité spéciale. Donc, on va pas tourner autour du pot. Visuellement, c'est très bien. Au niveau de la réalisation, au niveau du scénario, c'est parfait. Les acteurs sont au top. L'ambiance sonore et visuelle est réussie. Et on est dans un réalisme précis, sans polémique, mais sur un sujet terriblement d'actualité. Donc, il y avait tous les ingrédients pour que ça ne marche pas, et ça marche de façon admirable. Donc voilà, Cœur Noir, c'est sur Prime Video, c'est français, et je vous conseille vraiment de dépenser votre temps devant cette série. Je vous remercie.
Ah, quand il aime, il compte pas. On aime le dire quand il est comme ça, notre homme de loi des séries, quand il est avocat, et qu'il parle avec fougue et brio de ce qu'il aime.
Il a le cœur tendre pour Cœur Noir.
à découvrir donc sur Prime Video. La très belle partition de cette série est composée par Éric Neveu.
Faire un échange.
Contre quoi ?
Le piano.
Elle dit que c'est son piano. Elle ne veut pas qu'il y touche. C'est un russe. Il ne sait pas lire et il est ignorant.
Nous sommes une famille maintenant. Nous faisons tous des sacrifices et vous en ferez. Vous lui enseignerez le piano et j'y veillerai.
Je voudrais qu'on fasse un marché. Il y a des choses que j'aimerais faire pendant que vous jouez.
Fameuse composition, elle aussi remarquable et magnifique, signée Michael Nyman, pour le film non moins superbe de Jane Campion, La leçon de piano, parce que vous l'avez bien sûr reconnu, même si ce n'est pas la version originale, et c'est tant mieux pour vous, c'est plus facile à voir quand on regarde son poste de radio. Le film, vous vous souvenez, est l'adaptation, une adaptation d'histoire d'un fleuve en Nouvelle-Zélande. C'est un roman de Jane Mender, mais le roman ne figure pas au générique parce qu'il y avait des problèmes de droits d'auteur. Et il remporte entre autres la Palme d'Or du Festival de Cannes en 93. Et c'était à l'époque la seule femme qui avait obtenu le prix. Néanmoins, cette année-là, le jury s'était arrangé pour qu'il y ait un ex-aequo, un homme, Chen Kaige, pour « Adieu ma concubine », le réalisateur chinois. Néanmoins, elle reste la première femme, et avec ce film superbe, vous vous souvenez de l'histoire, Adam McGraw, incarné par Holly Hunter, est envoyé par son père en Nouvelle-Zélande, avec sa fille de 9 ans, Flora Napakin, pour épouser un colon qu'elle ne connaît pas, qui est incarné par Sam Neill. Et on se souvient du moment où elle accoste sur cette fameuse plage extraordinaire et que qu'on abandonne son piano sur la plage parce que on veut pas le porter dans les bois, j'allais dire les bois, la forêt dense qui couvre la Nouvelle-Zélande, et elle est meurtrie par cette histoire. Elle va rencontrer un homme auquel elle va apprendre à jouer du piano, et c'est la leçon de piano du titre. Voilà, le film, vous pouvez le voir au CGR de Rodez, mardi prochain, 27 mai, en version originale à 13h30. Et puis sinon, vous irez au Pathé Wilson lundi 26 mai à 19h pour la VO, et à la Beige à 19h45 si vous préférez le voir en VF. Le film, c'est le film de Luc Besson, Léon, un film de 1994 qui était le sixième en date du réalisateur, où Jean Reno endossait à nouveau le personnage d'un tueur à gages. Il avait été juste avant dans un film de Luc Besson, Nikita, où il faisait le ménage. Là, non seulement il fait le ménage, mais en plus il flingue les gens. Et puis il apprend à une toute jeune adolescente, une préadolescente, à à connaître son métier, à faire son métier à lui. Ça allait tuer les gens.
Il est humain quand même parce qu'il aime bien les plantes. Il se balade toujours avec un pot de fleurs.
Oui, c'est bien. Ouais.
Il sauve la plante et la petite fille à chaque fois.
Exactement. Alors, vous le savez, ou voir Léon de Luc Besson. Et puis sinon, dans la galaxie Burton, je vous en avais parlé la semaine dernière avec un peu d'avance. Pourquoi ? Parce que le film est visible demain, jeudi 22 mai à 19h30. C'est L'Échine du Diable de Guillermo del Toro. Et puis, il y a le lendemain, hein, c'est le lendemain, mardi 27 mai à 19h30. Tout ça, c'est la galaxie Burton. C'est au cinéma Pathé Wilson, puisque la cinémathèque est fermée pour travaux. Et ça sera donc mardi 27 mai, Freaks, à 19h30. Freaks, c'est le fameux film de Todd Browning qui réunit...
La monstrueuse parade.
La monstrueuse parade en français, et qui réunit, vous savez, ce qu'on appelait... il y avait un mot qui était utilisé pour parler de ces gens qui
les
monstres dans les foires
les monstres là exactement les monstres de foire
les monstres de sur la barbe, différent
il y avait l'homme à tête d'épingle la femme gigantesque la femme à barbe toute une série de personnages comme ça qui peuvent vivre justement parce que ils se montrent dans ces cirques sinon ça serait compliqué pour eux. Un très beau film de Todd Browning. Et puis dans Road Movie, il y a River of Grass de Kelly Richard. Alors Kelly Richard, c'est un très beau film qu'on peut découvrir. Et puis, en plus, elle est à Cannes aussi en compétition avec The Mastermind. Donc, alors le film fait pas écho du tout. Hein, c'est pas du tout la même histoire. Mais en tout cas, River Grass. Of Grass était particulièrement réussi, il semblerait, d'après les critiques, que The Mastermind, le film qui est en compétition à Cannes, le soit beaucoup moins. Vous irez voir donc River of Grass, alors je vais vous dire...
Samedi 24 mai à 16h.
À 16h aux abattoirs. Voilà, merci Guillaume Sidom, c'est à vous Laurent.
Le cinéma, la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 21h avec Les Misérables de Lajli, avec Damien Bonnard et l'excellent Alexis Manenti. Dans La Cité des Bosquets, en juillet 98, le jeune Buzz filme tout avec son drone. Et lors d'une patrouille, les policiers commettent une bavure et les policiers réalisent qu'ils ont été filmés par Buzz. 25 ans après La Haine, cette plongée virtuose prend aux tripes, hein, primé à Cannes, le film a eu le prix du jury, 4 Césars, ce premier long métrage, et Pessimiste et sans manichéisme, vraiment un grand film social, j'avais été vraiment emballé à l'époque. Vendredi, France 5, 21h, Asbestas, là aussi un film à voir absolument, de l'espagnol Rodrigo Sorogoyen, avec Marina Foïs, Denis Ménochet et l'excellent Luis Zaira. Dans un petit bar d'une région rurale de Galice, Xen tient un discours aussi agressif qu'autoritaire et anti-écolo. Olga et Antoine, deux Français qui sont installés là, se sont prononcés, eux, en faveur d'installation d'éoliennes dans le village, à la grande fureur de Xan. En quelques films, Rodrigo Sorogoyen confirme sa place au premier plan du cinéma espagnol contemporain. Entre drame et thriller, Asbestas est peut-être son film le plus abouti et inquiétant. Dimanche, à Arte 21h, on pourra revoir encore The Revenant d'Alexandre González Iñárritu avec Tom Hardy et Leonardo DiCaprio. En 1823, des trappeurs abandonnent Hugh Glass, gravement blessé à son sort, après que l'un d'eux a assassiné son fils. Et là, il va nous délivrer une masterclass de survie, je vous dis que ça, Koh-Lanta à côté, c'est rien. Alejandro Iñárritu signe une fresque grandiose et offre un rôle en or à Leonardo DiCaprio. Le conseil Blu-ray, vous l'attendez messieurs, le film gothique allemand, film d'horreur gothique allemand, Le Vampire et le Sang des Vierges, d'Harald Rein, un film de 1967 avec l'excellent Christopher Lee. Il joue, je vous le donne en mille, le vampire.
Ah bon
Oui, il joue pas la jeune fille, oui. En 1801, pour avoir assassiné 12 jeunes femmes, la 13e s'est échappée, heureusement. Le comte Regula est condamné à être écartelé en place publique. Ça doit faire mal, ça, non, quand même. Avant son supplice, il promet de revenir se venger, ce qui se produit, figurez-vous, 35 ans plus tard. Ben oui, sinon, il n'y aura pas de film. Hein. Un film d'horreur gothique allemand, très réussi, surtout grâce à la beauté des images et à ses magnifiques décors intérieurs et extérieurs. À découvrir aux éditions Artus, hein, c'est le petit truc en plus.
Oui, effectivement, on l'avait oublié celui-là.
Le film en Blu-ray pour 14,99€. Tenez Guillaume, vous allez pouvoir vous faire
beaucoup. Peur. C'est vrai que 35 ans après, ouais, il fallait avoir l'idée. Oui,
voilà pour le cinéma de télévision cette semaine.
Tout arrive.
J'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Ça me rappelle Beethoven.
Cette fois-ci, dans les dernières aventures d'Ethan Hunt dans Mission Impossible, ce sont Max Aruge et Alfie Godfrey qui s'amusent avec le thème fameux de Mission Impossible. Un petit mot sur le box-office, simplement pour vous dire que Partir un jour a réalisé une remarquable première semaine. Deuxième position, juste après Destination Finale Bloodlines. C'est une belle performance que voilà, 222 000 entrées. Messieurs, quels sont vos coups de cœur ?
Les coups de cœur, ce sera pour L'Avenue de l'Avenir qu'on peut voir dès demain et Libertate, le film roumain.
Jeune mère, les maudites, le cycle road movie aux abattoirs, gagnez vos places sur cinéma@radioprésence.com.
En ce qui me concerne, évidemment, je vous conseille et intime l'ordre pratiquement, mais en tout cas vous invite à aller voir La Venue de l'Avenir de Cédric Lapiche et le film des Frères Dardenne. Apparaîtra-t-il au
Palmarès,
ben, ça reste à voir. Hein. Et le film n'est pas encore passé, il faudra attendre encore un peu. C'est-à-dire vendredi. Alors, et puis, les cinéphiles toulousains ont beaucoup de chance parce qu'ils pourront se rendre au Pathé Wilson pour la 12e édition de l'opération Festival de Cannes des cinémas pâtés du 23 au 25 mai prochain. Ils pourront découvrir 13 films de la sélection officielle. Donc, dans cette sélection, on trouve plusieurs longs métrages en compétition, dont quelques-uns des favoris déjà cités, La Petite Dernière et L'Agent Secret. Et puis il y a aussi le premier film de Kristen Stewart, The Chronology of Water. Il y a La Vie privée de Rebecca Zlotowski avec Jodie Foster. Et puis bon, d'autres encore, vous irez sur pâté.fr pour voir le programme. Merci messieurs.
Bonne merci soirée, à vous.
On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.
De la musique, de l'opéra et des experts tous mélomaniaques. Voici Mélomanie. Amoureux ou amateurs de musique classique, venez